en bas de la page Tzadik Tet, la page Tzadik Tet 197. Et on est en train d'essayer d'expliquer, on a essayé, commencé à expliquer la semaine dernière, donc je vais refaire un petit résumé brièvement. Comment on peut trouver la Teshuvah Ila'a dans la vie de, comment on peut trouver la Teshuvah Ila'a dans la vie de tous les jours. Il a expliqué, bonsoir, on vient de commencer. Donc on a expliqué la semaine dernière que la Teshuvah Ila'a, on a expliqué que de manière générale, on a, ce que vous vous rappelez, on a parlé de Amshacha, Milmala le Mata, ou Milmata le Mala. Je rappelle. On a expliqué qu'il y a des fois où c'est du haut vers le bas, et des fois c'est du bas vers le haut. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Ça me dit quelque chose? Bon. Alors, qui peut... On a donné l'exemple de... D'accord? On a parlé de l'étude de la Torah et de la prière. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit que la Torah, l'étude de la Torah, c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut?
Du haut vers le bas.
Hmm?
Du haut vers le bas.
On va commencer par la tefila, c'est plus simple.
Du bas vers le haut.
D'accord? La tefila, c'est le bas vers le haut ou le haut vers le bas?
Du bas vers le haut.
La tefila, c'est le bas vers le haut. Parce que qu'est-ce que je fais dans la tefila? Dans la tefila, je suis en train de m'adresser à Akadosh Baruch Hu. Donc j'essaye de communiquer avec Akadosh Baruch Hu. La tefila, c'est le bas vers le haut. La Torah, c'est quoi? C'est quoi la Torah? La Torah, on a expliqué la semaine dernière, c'est le contraire. C'est, il y a un message qui descend d'Akadosh Baruch Hu vers moi, et moi, je vais essayer de communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Et on a expliqué, la semaine dernière, on a expliqué que dans la Torah, et de manière générale en toute relation humaine, notamment avec sa femme, avec sa famille, avec ses enfants, etc. C'est toujours donnant-donnant. C'est le point qu'on a expliqué la semaine dernière. Si on peut résumer en un mot le cours de la semaine dernière, c'est donnant-donnant. Ça veut dire comme ça. Je reprends l'exemple qu'on a donné la semaine dernière, et j'espère que ça va être clair, donc on va essayer de... C'est bon, tout le monde est là? D'accord.
Dans
tiens, les... Je sais pas où ils sont, ils ont dispersé un peu.
Ils sont dispersés.
C'est un là, voilà. C'est où? Page Tzadik Tet, 197. Donc, on a expliqué que dans toute relation humaine, c'est ce qu'on a expliqué, idabkut rucha berucha. Qu'est-ce qu'on appelle avoir une relation avec quelqu'un? Être amoureux de quelqu'un, entre guillemets. C'est idabkut rucha berucha, c'est quand l'esprit va s'attacher avec l'esprit. En d'autres termes, ça veut dire quoi? On a expliqué que dans toute relation humaine, ça dit tête. Dans toute relation humaine, le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est pas le fait qu'un corps va s'attacher avec un autre corps. Ça, c'est un détail. Le plus important dans toutes les relations, c'est quoi? C'est le fait qu'une personne va s'attacher avec une autre personne. C'est donnant-donnant. Alors, on avait donné l'exemple, et je pense qu'avec ça, on va comprendre. Comme si vous avez, par exemple, imaginez-vous que moi, je suis en bas de la montagne, et qu'en haut de la montagne, il y a Avner. Qu'on a besoin de communiquer. Maintenant, tel quel, on peut pas communiquer, parce que lui, il est tout en haut, moi, je suis tout en bas. Donc, on parle pas. On peut pas se parler. D'accord? Donc, on peut pas communiquer. D'accord. On peut pas communiquer, donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut que chacun fasse un pas. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, bah, c'est pas compliqué. C'est soit lui, il descend vers moi, soit moi, je descends vers lui. Explique le Zohar. Le Zohar, il dit, c'est ni l'un, ni l'autre. Parce que, si lui, il descend vers moi, mais que moi, je ne l'attends pas, eh ben, je le verrai pas arriver. Et si moi, je monte vers lui, et que lui ne m'attend pas, il me verra pas arriver non plus. Et c'est comme ça dans toutes les relations humaines. Que des fois, on peut faire un pas vers quelqu'un, mais il nous voit pas arriver. Pourquoi il nous voit pas arriver? Parce que c'était pas une relation qui était donnant-donnant. C'était pas des deux côtés. Donc d'où on a expliqué la semaine dernière l'importance de idabkut rucha berucha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attacher l'esprit avec l'esprit. C'est ça le plus grand amour, le plus grand attachement qui puisse exister selon la Torah. D'accord? C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On a expliqué que notamment où on trouve ça, on retrouve ça dans le Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on fait dans le Kriyat Shema? Eh bien dans le Kriyat Shema, c'est notre partie du donnant-donnant. Parce que c'est quoi la Torah, on a dit? La Torah, c'est le haut qui descend vers le bas ou le bas qui monte vers le haut?
Le haut qui descend vers le bas.
C'est le haut qui descend vers le bas. Mais qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure? Que pour que le haut descende vers le bas, c'est donnant-donnant, donc il faut d'abord que le bas monte vers le haut. Comment le bas monte vers le haut? Comment je montre à Kadosh Baruch Hu que j'ai envie de monter vers lui? C'est pendant la tefila. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'accorder du temps à la tefila. D'accorder du temps à la tefila, de prendre le temps qu'il faut pour la tefila, parce que la tefila, c'est le donnant-donnant qu'on a avec Kadosh Baruch Hu. Je lui montre que voilà, j'ai fait un pas vers toi. Maintenant, c'est à toi de faire un pas vers moi. C'est donnant, donnant. Et c'est un principe qu'on peut appliquer à toutes les relations. Il faut savoir que, dans toutes les relations, même si la relation qui va avoir entre deux hommes, d'accord, ou entre un homme et une femme, etc., va prendre une forme, par exemple, on a une relation ensemble parce qu'on travaille ensemble, d'accord, donc la relation a pris forme par rapport au travail qu'on fait ensemble. C'est possible. Mais ça ne change pas que derrière cette relation qui est au travers d'un travail, il y a deux esprits qui s'attachent. Et s'il y a deux esprits qui s'attachent, ça veut dire forcément qu'il y a un qui a fait un pas vers l'autre. Que chacun a fait un pas vers l'autre, parce que sinon ça marche pas. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Tout le monde est réveillé, on s'endorme ce soir-là. Allez, on se réveille. Monsieur Haussmann, bonsoir. Il est 45, hein.
Morio.
Mira.
Mira.
Un japonais n'a jamais été en retard déjà.
Ah oui, déjà,
on n'a pas eu de
japonais, ils sont ponctuels. Un japonais,
il n'a pas besoin de s'excuser.
Comment dit bonjour en japonais?
Hous.
Hous. Hous, ça veut dire quoi, hous?
Salutations.
Bon, ok. Donc, en d'autres termes, voilà, en un mot, ce qu'on a expliqué, c'est la chose suivante. C'est donnant. Ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est le concept du donnant-donnant. Voilà, en un mot. Donnant-donnant. Ça veut dire que si j'ai envie de m'approcher de quelqu'un, il faut que moi j'ai envie de m'approcher de lui, et que lui ait envie de s'approcher de moi. Chacun doit faire un pas. Ça n'existe pas une relation humaine dans laquelle moi je fais un pas et l'autre ne fait pas un pas. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un dégoût. Quand vous avez une personne qui s'approche de vous et que vous n'êtes pas intéressé par lui, non seulement qu'il va pas s'approcher de vous, mais au contraire, ça va générer un sentiment de dégoût. Ben Dieu préserve, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu s'approche de nous mais que nous, on n'est pas intéressé, ça va nous créer un dégoût de la religion. Vous comprenez pourquoi il faut être très prudent? Pourquoi il faut être très prudent quand on parle de religion avec quelqu'un? Pas lui parler, lui balancer comme ça. Il y a des gens qui ils vont voir des gens qui sont pas religieux, ils disent ouais, tu sais, très important le Shabbat, très important et tout, tu vas brûler en enfer, c'est pas Shabbat. Non seulement que t'as pas, c'est-à-dire quand tu essayes de t'approcher de lui, mais que lui ne t'attend pas, non seulement que tu le rapproches pas, mais tu l'éloignes. Parce que c'est donnant, donnant. C'est comme ça que ça marche. Donc donnant, donnant, ça veut dire que il faut faire un pas, il faut attendre que l'autre fasse un pas, et après tu fais le pas suivant. Sinon ça marche pas. Très bien. Donc c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Comment nous on fait le premier pas quand on fait la tfila? Comment Akadosh Baruch Hu fait le pas suivant quand on étudie la Torah? Quand on étudie la Torah, c'est là que Dieu s'approche de nous. D'accord. Donc Torah, Tfila. Torah, Tfila. Donc c'est l'importance qu'il y a entre l'étude, l'étude c'est le pas qu'Akadosh Baruch Hu fait vers nous, et la prière. Quand je dis la prière, c'est pas seulement la prière dans le sens l'Amida. La prière, c'est de manière générale de prendre le temps à penser comment je peux m'approcher davantage d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. C'est comme ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit avant que moi je m'approche de toi, il faut que toi tu montres que tu veux t'approcher de moi. Tu es sincère. Après, je fais le reste.
Mais pourtant, on dit dans la Chassidoute qu'avant de faire la tfila, il faut le dire l'impôt.
Oui, c'est pour se préparer à la tfila.
Voilà.
Donc ça, c'est dans le cadre du pas que moi, je vais faire à Kadosh Baruch
Hu. Tu vois, ça peut être aussi dans ce sens-là.
Oui, mais l'étude de la Torah en général, la Gemara, etc., c'est le contraire. C'est Dieu qui descend vers nous. Donc on va prendre dans les mots maintenant. On est à la page 100, donc la page Tzadik Tet, et on est Vechen Lekayem Kol HaMitzvot. Trois lignes avant la fin de la page. C'est bon? On est dans les mots?
Bonjour.
Alors. Voilà. T'as vu, je t'ai dit. Je trouve pas, ben je t'en ai. D'abord. Ok. Alors, Vechen, pareil. D'accord? Vechen, pareil. Donc là, qu'est-ce qu'il va amener comme preuve? Il va amener comme preuve que pour qu'une personne, quand, bonsoir. Qu'est-ce qu'il veut expliquer ici? Vous savez qu'on va reprendre peut-être, quelques lignes plus tôt. Sinon on va pas comprendre. Voilà. Vechen vayu, voilà. Vayu advarim haele. Quatre lignes avant la fin de la page. Vechen pareil. Vehayu advarim haele. Asher, d'accord, vegomer, etc. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma? On dit vehayu advarim haele. Ils seront ces choses-là, asher, donc qu'est-ce qu'il dit le verset là-bas, etc. Asher anochi metzavecha. Que qui c'est qui nous donne la Torah? Qui c'est qui nous ordonne la Torah? C'est Akadosh Baruch Hu qui ordonne la Torah. Comment une personne peut savoir, peut ressentir que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne la Torah? C'est au travers de la tfila qui a précédé l'étude de la Torah. Liyot dvar Hashem vefiv ve'emet ve'en emet ve'chule. La Gemara Yerushalmi nous dit que le emet, le seul emet qu'on connaît, c'est quoi? C'est la Torah. Alors, c'est une image qui est très jolie que le Talmud de Jérusalem donne là-bas. Il dit de la même manière que quand je veux appeler quelqu'un, il y a quelqu'un qui est là-bas et j'ai envie de l'appeler. Comment je fais pour l'appeler? Ben je l'appelle par son prénom. D'accord, je dis, Lévi, Yosef, viens ici. D'accord, je l'appelle Yosef, je lui donne son prénom. Explique là-bas dans le Talmud de Jérusalem, il dit, c'est la même manière, donc de la même manière, t'as un petit enfant qui va se mettre à crier le nom de son père, mais ce qui explique là-bas le Talmud de Jérusalem, c'est que le petit enfant, il va pas forcément bien formuler le prénom de son père. Mais son père va comprendre ce qu'il voulait dire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que, il explique là-bas, il dit que quand on va appeler quelqu'un, on l'appelle par son nom. D'accord, par son prénom. Mais des fois, t'as un petit enfant qui va appeler son père, mais il n'est pas capable de bien formuler le prénom. Mais son père va le reconnaître tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est son fils. Parce que c'est la voix, parce qu'il reconnaît son fils. Alors il explique là-bas, hein, il explique là-bas le Talmud de Jérusalem, dans l'image, il dit la chose suivante, il dit c'est la même chose. Il dit, on dit dans le Hashrei, Karov Hashem lechol korav, lechol asher ikraou vehemet. Que Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. C'est-à-dire quoi, tous ceux qui l'appellent? C'est-à-dire, on va inclure même des gens qu'on a l'impression qu'ils ne l'appellent pas. Lechol asher ikraou vehemet. À tous ceux qui l'appellent avec la vérité. C'est-à-dire quoi, appeler quelqu'un avec la vérité?
Sincérité.
C'est-à-dire, ce qui compte, c'est la sincérité. Qu'est-ce que le père entend? Qu'est-ce que la mère entend dans la voix de son fils?
C'est le sentiment.
C'est le sentiment qu'elle attend.
Le
besoin de son fils qui dit « Maman, papa », le « émettre » qu'il y a derrière. D'accord? La pureté qu'il y a derrière cette voix.
C'est un sentimental.
D'accord? Bien sûr. C'est ça ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Et c'est comme ça que nous, on fait un premier pas, donnant. C'est comme ça que nous, on fait un premier pas vers un Kadosh Baruch Hu. Rappelez-vous cette phrase de Hashrei. « Karov Hashem l'chol korav » Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent. Mais comment on appelle quelqu'un qui appelle à Kadosh Baruch Hu? C'est pas forcément un kabbaliste qui connaît tous les noms de Kabbalah et qui sait exactement sur quel bouton appuyer. Je connais pas, je sais pas quel bouton appuyer, moi. Non. C'est tous ceux qui sont capables de faire Béhémet. C'est-à-dire, tu peux avoir un grand kabbaliste qui est très fort en Kabbalah, qui sait exactement quel bouton appuyer, mais qui ne le fait pas avec la vérité. Ah, il le fait de manière technique, de manière sèche. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là? Il le fait pas Béhémet. Puisqu'il ne le fait pas Béhémet, on lui ferme les portes. D'un autre côté, c'est ce que le Baal Shem Tov disait toujours. Le Baal Shem Tov disait toujours que Rachamana Akadosh Baruch Hu Liba Bae, il veut le cœur. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on en voulait beaucoup au Baal Shem Tov. Parce qu'on dit quoi? C'est-à-dire quoi? Jusqu'à présent, ceux qui détenaient le savoir étaient ceux qui faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, le Baal Shem Tov, il a tout cassé. Il a dit non, ce qui compte, c'est pas le savoir, ce qui compte, c'est le cœur. C'est ce qu'explique le Baal Shem Tov. Exactement ce qu'on est en train de dire ici. Que ce qui compte, c'est quoi? C'est le Emet, c'est la vérité. Ça veut dire que vous pouvez avoir un fils qui sait très bien appeler sa mère. Il sait exactement prononcer. Mais dès qu'il le prononce, sa mère, elle sent qu'il ne m'appelle pas parce qu'il a envie de moi, il m'appelle parce qu'il a envie de me tirer quelque chose. Enfin, parce qu'il a envie d'argent ou quelque chose comme ça. Ça la dégoûte. D'un autre côté, t'as un petit enfant qui ne sait même pas prononcer le nom de sa mère. Il va pleurer, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais comme il y a un émet derrière, tout de suite, ça touche.
C'est le problème. Ça, pour créer contact, mais derrière, on attend.
C'est ce que disent les gens qui sont pas religieux. Ce qui compte, c'est le cœur.
Non, attention, il va y arriver.
Ça,
alors, justement, tu vas expliquer ici. C'est pour ça qu'il arrive tout de suite ici. Il dit, le kayem kol amitzvot. C'est pour ça qu'il dit juste derrière, qu'est-ce qu'il dit, Morazaken, il dit, attention. Il dit, si tu as une personne, Zerma, qui va dire, bon, moi, Dieu, c'est dans mon cœur.
Voilà.
Des fois, je propose aux gens de mettre les tefillin, et ils me disent, non, moi, je suis juif dans le cœur.
Je vais vous mettre dans le cœur, justement.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il dit, Morazaken, il dit, non, ça marche pas comme ça. Il dit parce que, qui c'est qui va décider comment on s'adresse à Kadosh Baruch Hu? Qui c'est qui crée le mode d'emploi? Parce que moi je dis, je pense que je sais ce que ça veut dire être juif dans le cœur. Je te dis non. Toi ce que tu fais c'est du bluff. Ça veut dire que les sentiments que tu vas avoir, etc., c'est du bluff. Qui c'est qui va décider qu'est-ce qui est appelé pleurer vers un Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui est appelé s'attacher à Kadosh Baruch Hu? C'est à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, étant donné qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à définir un Kadosh Baruch Hu, donc on n'a aucune idée pour savoir qu'est-ce qui va le toucher. À Kadosh Baruch Hu, il dit, écoutez, c'est très simple. Si vous ne suivez pas mon mode d'emploi, ça ne touche pas. Ça veut dire, en d'autres termes, tu peux avoir une personne qui a des sentiments extraordinaires. Pendant toute une journée, il a passé toute la journée à penser à la misère des tefilines. Et qu'est-ce que ça représente les tefilines? Et qu'est-ce qu'il y a dans le tel paracha? Et quel mot? Et quelle lettre? Etc. Mais il a pas mis les tefilines. Bien, c'est du cuir, c'est un peu vieux jeu, ça. Moi, j'ai pensé toute la journée aux tefilines. D'un autre côté, t'en as un autre. C'est un Loubavitch qui l'a attrapé, il a mis les tefilines de force. C'est quoi le din? Qui est quitte, qui est pas quitte? C'est évident. Faut vous dire la réponse. Comment ça se fait? Pourtant, c'est pas logique. Si le but des tefillin, c'est de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, a priori, celui qui a passé toute la journée à réfléchir aux tefillin, s'attachait beaucoup mieux que celui qui les a mis presque de force ou pour faire plaisir à quelqu'un parce qu'il lui cassait les pieds. Comment ça se fait? La réponse est très simple. Ça, on l'avait étudié en chapitre 4 du Tanya. C'est que la Torah, c'est le mode d'emploi. Vous comprenez? C'est comme t'achètes un micro-ondes. Il y a un mode d'emploi. Un mode d'emploi, t'achètes un téléphone, il y a un mode d'emploi. Le bouton vert, ça décroche, le bouton rouge, ça raccroche. Maintenant, peut-être que quelqu'un qui va dire, moi, je préfère le bouton vert pour raccrocher et le bouton rouge pour décrocher. Je préfère comme ça. D'accord? Tu peux préférer ce que tu veux. Ça marchera pas. Même si tu passes toute la journée à appuyer sur le bouton rouge.
T'as dit le contraire.
Ça veut dire, deux secondes, laisse-moi arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, d'un côté, Akadosh Baruch Hu nous demande le cœur, mais d'un autre côté, il nous permet d'utiliser notre cœur, et c'est-à-dire de s'adresser à Akadosh Baruch Hu avec notre cœur, seulement si c'est dans le cadre du mode d'emploi qu'il a prévu. C'est quoi le mode d'emploi? C'est la Torah. Ça veut dire qu'on est limité. On est d'accord? C'est-à-dire Dieu te donne un mode d'emploi. Voilà, il y a un micro-ondes, appuyer sur le bouton vert. Maintenant, t'as un grand chacham qui va dire, moi, je t'explique ce qui se passe, j'ai décortiqué le micro-ondes, le bouton, etc. Mais dans les faits, il appuie pas le bouton. Il appuie pas le bouton, il a rien fait. D'un autre côté, t'as un hamar qui vient par derrière, il appuie le bouton, il a tout fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est le cœur. Mais à quelles conditions? À condition qu'on le fasse dans le cadre du mode d'emploi. Si tu le fais pas dans le cadre du mode d'emploi, ça sert à rien.
Donc c'est le cœur dans le mode d'emploi.
Exactement. C'est le cœur dans le mode d'emploi. C'est la kavana qui est alliée à la mitzvah. Comment je suis omrim? Regardez, il amène une preuve. Comment je suis omrim? Asher ki desha nu be mitzvotav. Avant de faire chaque mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? D'accord? Dans les mots, venez, prends dans les mots. Deux lignes avant la fin de la page. Qu'est-ce qu'on dit avant de faire une mitzvah? On dit, Asher, là, en fait, le thème du cours d'aujourd'hui, c'est donnant-donnant, comme la semaine dernière. Ça veut dire donnant-donnant, ça veut dire que, on va expliquer comment, quand je fais une mitzvah, je donne à Dieu pour que Dieu me rende. Très bien. D'accord? Alors, regardez bien, c'est très ça. Je fais une mitzvah, qu'est-ce que je dis comme bracha? Asher, qui deshanu, mais mitzvotav. Traduction, ça veut dire quoi? Allez, messieurs.
Qui nous a ordonné.
Ah oui, alors vas-y, va, par exemple. Je vais me laver les mains. Allez, bon, je vais mettre le filet demain matin. Baruch Ata Hashem. Bon, traduction.
Béni
sois-tu Dieu, d'accord. Eloquenu. Bon, Melech Haolam, d'accord. Bon, je dis tout va bien. Bon, il est béni, ok, pourquoi pas. Asher. Asher. Qui déchaîne nous mes mitzvotav. Qui nous a sanctifié avec ses mitzvot. Très bien. Alors regardez ce qu'il va expliquer ici. Ça veut dire quoi qu'il nous a sanctifié avec ses mitzvot? Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Écoutez bien. Il dit, quand on entend le mot Kideshanu, ça nous rappelle quel mot? Ça nous rappelle Kiddushin. Kiddushin, c'est quoi en hébreu? C'est un mariage. D'accord? Eh oui.
Pas Kiddush.
Attendez. Kiddushin, ça veut dire quoi? Ça veut dire mariage. Mais mariage, ça veut dire quoi? Pourquoi une femme, lorsqu'elle se marie, on dit qu'elle est sanctifiée?
Ah, avec Ushati,
oui. Quel rapport? Pourquoi? Parce que je me marie avec une femme, je l'ai sanctifié. On n'est pas des...
C'est
pas des chrétiens, ils disent.
Parce qu'elle est séparée des autres.
Quel rapport avec sanctifié?
C'est sanctifié, c'est Mogdal.
Alors, écoutez bien. Kadosh, en hébreu, on traduit en français par saint. Mais en vérité, c'est une mauvaise traduction. Kadosh, en hébreu, ça veut dire réservé. Ça veut dire différencié. Ça veut dire saint. D'accord? Ça veut dire séparé. Kadosh ou Mouda. Très bien, attends, on va expliquer. Et donc, lorsqu'une femme est mekoudéchette, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cette femme, jusqu'à présent, elle était permise à tout le monde. C'est-à-dire, celui qui voulait pouvait se marier avec elle. Dorénavant, étant donné qu'elle est mariée avec quelqu'un, dorénavant, elle est réservée pour quelqu'un. Quel rapport avec la Kdoucha? Eh bien, la Kdoucha, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que dans le monde, on a soit la Klipa, soit la Kdoucha, soit les forces du mal, soit les forces du bien. Quel est le message que nous vont passer les forces du mal? C'est-à-dire tout ce qui est le mal autour de nous. Les forces du mal te vont passer comme message, tu fais ce que tu veux. T'as des comptes à rendre à personne.
Non, ce qui est bien, c'est
deux secondes, Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'as des comptes à rendre à personne. Tu n'as rien à faire de personne. Ce qui compte, kiffe.
Le kiff.
Te prends pas la tête. Voilà. Donc en d'autres termes, tu n'es pas réservé, tu n'es pas consacré à qui que ce soit. Tu fais ce que tu veux, t'es libre. L-I-B-R-E. Tu kiffes.
Free.
D'accord? Free. La liberté. C'est ça, non mais attendez, c'est ça. D'accord? C'est pour ça que, vous savez, c'est pour ça qu'on explique pourquoi c'est très important de faire attention aux musiques qu'on écoute. Parce qu'on dit que une musique, ça nous donne un sentiment. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est un sentiment que la personne qui a composé la chanson a eu au moment où il est en train de composer. Et maintenant, vous verrez tout de suite que quand on écoute une musique, il y a deux catégories de sentiments qu'on peut avoir. C'est-à-dire quand on écoute certaines musiques, on se renferme un peu sur soi-même, et on a envie de réfléchir un peu à notre situation, et on a envie de changer quelque chose dans notre vie.
Introspection.
Ça, c'est bien. D'accord? Mais il y a d'autres musiques.
On a envie de s'éclater.
D'accord? T'entends cette musique, tu veux tout casser, tu veux aller à la plage, d'accord? Tu veux tout oublier.
Le côté du classique.
D'accord?
Le côté du classique.
Même le classique, ça change pas.
Non.
Quel sentiment tu as quand tu écoutes la musique? Alors écoutez bien ce qu'il explique ici. C'est quoi Kadosh? Kadosh en hébreu, ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre les forces du mal et les forces du bien, puisqu'on aime bien les appeler comme ça ici? Quand c'est quand dans la Kdusha, quel est le message que me fait passer la Kdusha? C'est chaque chose, qu'est-ce qu'elle me fait? Non mais la Kdusha en général, la prière, la Torah, etc. Quel message la Kdusha me fait passer? Le message que la Kdusha me fait passer, c'est qu'elle me dit toujours, il faut te réserver à Dieu. Chaque instant de ta vie doit être consacré à Dieu. Donc, ma vie ne m'appartient pas. Chaque détail de ma vie appartient à Kadosh Baruch Hu. La Torah régit chaque détail de ma vie. Même quand je suis aux toilettes, elle me dit comment je dois me comporter. Tout. Je me réveille, elle me dit comment je dois me réveiller. Je m'endors, elle me dit comment je dois m'endormir. Tout. Ça, c'est la définition de la Torah.
Je viens pas au cours.
Ça, c'est Kadosh. Kadosh, ça veut dire quoi? Kadosh, ça veut pas dire un tzadik. Kadosh, c'est nous. Ça veut dire qu'on réserve chaque détail de notre vie à la Torah. C'est quoi la klipa? C'est exactement le contraire. C'est au contraire, je ne suis réservé à personne, je fais ce que je veux, d'accord? C'est un petit peu comme le mouvement de liberté qu'ont voulu avoir les femmes, on est, d'accord? Et, bon, ni soumise, ni etc. D'accord? On est soumise à personne, nous, ici, on fait ce qu'on veut. C'est un message qui est très négatif, ça. C'est le contraire de la kdusha.
Dans ce cas-là, c'était
pas... Non, oui, bon. C'est un message qui est contraire à la kdusha, le fait de dire on veut se libérer, on veut être libre. Ça veut dire que quand on parle, justement, on en parlait ce matin, qu'est-ce que la Torah pense de la dictature?
Elle est pour.
D'accord? Eh ben, la Torah n'est pas forcément contre.
Ah, c'est...
Je vais vous dire pourquoi. Parce que, par exemple, le Mashiach qu'on attend, hein, on en a parlé ce matin. Le Mashiach qu'on attend. C'est Melech à Mashiach. C'est un roi, mais le roi Mashiach.
C'est ce que j'allais dire. D'accord? Toute royauté est une dictature.
Non, oui, si. Bien sûr. Et je vais vous dire plus que ça. Je vais vous dire plus que ça. Tu veux que je te dise? Même aujourd'hui que Zerma, tu vois, on va choisir. D'accord? Attendez. Deux secondes. Aujourd'hui que tu as des partis politiques, d'accord, et que c'est un choix et qu'on dit que c'est un choix qui est Zerma démocratique, en vérité le choix n'est pas démocratique. Je vais donner un exemple. Obama est passé aux États-Unis. Pourquoi il est passé aux États-Unis? Parce que les gens l'ont vraiment choisi ou parce qu'il a fait un gros coup de pub? Parce qu'il avait du charisme, d'accord? Parce qu'il présentait bien. Donc ça veut dire qu'on l'a pas choisi en vérité. Non, on l'a pas choisi, il a orienté le choix. Donc c'est encore pire. Parce qu'à la limite, qu'on me dise directement, t'as pas ton mot à dire, tais-toi, la ferme et c'est tout, excusez-moi du terme, c'est plus simple. Bah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah, on n'est pas contre la dictature. Mais attention, à condition que le dictateur n'utilise pas ça en mal. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans la dernière génération et même chez les juifs. Les derniers rois qu'on a connus, qu'on retrouve l'histoire dans le Nard, dans la Bible, c'est des dictateurs qui ont très mal utilisé, des rois qui ont très mal utilisé leur pouvoir. Qui ont utilisé leur pouvoir pour pousser les gens à aller contre la Torah, pour faire ce qu'ils voulaient, pour écraser tout le monde, pour etc. Enfin, des choses très graves.
Ouais, mais même la monarchie, quand elle a été bien utilisée, dans l'histoire d'Israël, elle a quand même été relativisée par la présence des prophètes. Donc c'est pas vraiment...
Non, mais la monarchie, on a besoin de la monarchie. Enfin, pour moi, l'Égypte, ils ont besoin de la monarchie là-bas. Ils ont besoin, Ça va être la catastrophe là-bas maintenant. Tu vois ce qui va se passer?
Il n'y a pas de monarchie.
Oui, bon.
Les plus grands rois, c'était David et Shlomo, et voilà. Les prophètes, ils ont contrebalancé le pouvoir.
D'accord.
Et eux, ils ont accepté.
Tu as raison. Mais ce que je vais expliquer, c'est quoi?
Pas toujours.
Non,
ce qui se passe actuellement en Égypte, ils sont en train de manifester tous les jours. Non, mais c'est-à-dire aujourd'hui, ils sont en train de tout manifester. Non, mais ça y est, ils manifestent maintenant pour chacun pour un boulot. C'est fini. Ils sont dans la déroute totale, là. Ils sont le début de la fin.
C'est un peuple qui a besoin d'un dictateur. Mais bon, enfin.
Chacun est en train de manifester pour
un autre sujet. Alors, on va pas s'écarter. Donc, je reprends. Hacher, Kideshan ou Bemitzvotav? Qu'est-ce qu'on dit quand on fait une mitzvah? On dit Hacher qui déchane ou bemitzvotav. Akadosh Baruch Hu, par ses mitzvot, il nous a
sanctifié,
il nous a séparé. Ça veut dire qu'en d'autres termes, quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de montrer à Akadosh Baruch Hu que je consacre un détail supplémentaire de ma vie. Donc je suis en train de faire
un pas
vers Akadosh Baruch Hu. Voilà, on a tout gagné. Vous voyez la différence entre... Et c'est comme ça que ça marche. La Torah, c'est Dieu qui fait un pas vers moi. Pour que Dieu fasse un pas vers moi, il faut que moi je fasse un pas vers lui. Comment je fais un pas vers lui? Voilà, par la tefila et par les mitzvot. Quand je fais une mitzvah, dans le mode d'emploi, qu'est-ce que je fais quand je fais une mitzvah? Je consacre un détail supplémentaire de ma vie. Je dis voilà Dieu, tu vois, ce détail aussi t'appartient, ce détail aussi, et ce détail aussi, et ce détail aussi. C'est des pas que je suis en train de faire à Kadosh Baruch Hu, je suis en train de consacrer ma vie à Kadosh Baruch Hu. Kideshanu fait mitzvotav. Kemo areat mekudeshetli. Voilà, vous voyez dans les mots. Comme lorsqu'un homme se marie avec une femme, il lui dit « Arrête mes coups d'échelle, dorénavant tu m'es consacré ». De la même manière, lorsqu'on fait une mitzvah, on se consacre à Akadosh Baruch Hu, donc on est en train de faire un pas vers Akadosh Baruch Hu. « Hi prinat Kodesh Elyon, Lashon Prishut Ve'Avdala, She'eno Yachol Leitlabesh Tor Almin, Mishum Dekula Kame Keloch Hashiv, et la Bibrinat Sobev Kol Almin. Voilà, il va un peu plus loin. Il dit comme ça. Il dit, quand on parle de Kodesh, Kodesh, j'ai dit que j'ai traduit Kodesh en hébreu par consécration. D'accord ? Ça veut dire que Dieu est que nous, on se consacre à Kadosh Baruch Hu. Il va aller encore plus loin. Il va dire que Kodesh, ça veut dire aussi autre chose. Kodesh ne veut pas dire seulement consacré. Ça veut dire aussi séparé. C'est pour ça, et je pense que c'est pour ça que quand on je crois que ça doit être la racine du mot saint. Quand on verra après le cours, on verra sur Internet, mais c'est quoi la définition du mot saint en français ? Un saint, c'est quoi un saint ? Un saint, je pense que la définition de quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui est inaccessible. C'est quelqu'un qui nous dépasse. Il est au-dessus de nous. Ça veut dire que quand j'entends le mot kadosh, écoutez bien ce que je veux dire. Kadosh, ça veut dire d'abord que c'est quelqu'un qui est consacré. Mais bon, on peut être consacré sans forcément être au-dessus de tout le monde. On peut être consacré à Dieu. Ça, on est tous capables de le faire. Mais kadosh aussi a un deuxième sens. Kadosh veut dire également, pas seulement consacré, mais séparé. Kadosh vient de dire kadosh ou mouvdal. Comme cette femme qui non seulement est consacrée à son mari, numéro 1, et numéro 2, elle est séparée des autres hommes. Parce qu'une femme qui est consacrée à son mari, mais qui est aussi consacrée aux autres, ça pose problème.
Les autres femmes aussi.
D'accord ?
Les autres femmes aussi.
Eh oui.
On t'a volé ta bicyclette.
Alors, tu viens à pied ou en vélo ?
Hein ? On lui a volé pour deux fois. Ah, pour deux fois, ça va être.
Ouais, ça
va être pas
par contre. Ah oui, Milan.
Bravo, bravo.
Capara.
Tu vois, j'ignorais. Que je sois venu à pied, je
t'ai dit. Et t'as assuré ou pas ?
T'as réservé la meilleure place.
Bon, c'était une période de capara, hein.
Sur ma salutation, tu dis qu'elle était dans la classe.
Et il reste des tanières là-bas ? Une placard ? Ouais, c'est des tanières, placard. Je crois pas qu'il en reste. Vous avez su ensemble ?
Il y en a un là, au-dessus, là, dans le Starbucks.
Où ?
Là, dans le Starbucks.
Là, celle-là ?
Ouais.
Ah, mais c'est sportif, je voulais voir. Ça vous dérange pas ?
À hauteur, voilà.
Ah ouais, ah, exact.
Pas, bon, pas à travers les murs, maintenant.
Je m'occupe de ce qui se passe.
Kadosh.
C'est bien, ça.
D'accord ?
Je sais où je range.
Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué ? Oui, je sais à Kadosh. Kadosh, j'ai dit en hébreu que Kadosh, ça veut dire deux choses. Ça veut dire tout d'abord consacré, de la même manière que la femme, lorsqu'elle est mariée, elle est consacrée à son mari, numéro 1. Mais ça veut dire aussi séparé. De la même manière que cette femme, une fois qu'elle est consacrée à son mari, bah, automatiquement, elle doit se séparer des autres hommes. Elle n'a plus rien à voir avec les autres hommes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle va devoir couvrir ses cheveux, etc. Plus que pour montrer que je suis maintenant, dorénavant, je suis non seulement consacré à mon mari, mais je suis séparé des autres hommes. Ben, c'est la même chose dans la Kdoucha. D'accord ? C'est la même chose dans la Kdoucha. Que quand on dit qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire les deux choses. Quand je fais une mitzvah, tout d'abord ça veut dire que je consacre un détail de ma vie en plus supplémentaire à Kadosh Baruch Hu. C'est un premier détail qui est très important. Mais ça veut dire aussi que quelque part, que je vais devoir me séparer des bêtises de ce monde. Ça veut dire, il y a des gens qui pensent que, moi je suis à la synagogue, je fais une mitzvah, je me consacre à Dieu, mais je peux être consacré à Dieu à la synagogue, et quand je rentre chez moi, je suis consacré
à la télé.
À la télé. D'accord ? À la télé, à la PSP, à la PlayStation, etc. D'accord ? Au iPhone.
Alors.
4.
Parlons-en.
Alors, parlons-en.
Au Nokia.
Ah, mais t'inquiète pas, lui, il fait le... Il fait le dessus.
Ah,
c'est Shalom. Et d'ailleurs, t'es le premier. Toujours hein, la règle au premier. Hein ? Au cours ?
Par exemple,
donc, j'étais en train de dire, c'est quoi le concept de Kadosh, le concept de la Kdoucha en hébreu ? C'est qu'on te dit, tu peux pas être consacré sans te séparer.
Par exemple, si vous dites, cette semaine, il y a Arsenal-Barça et je veux pas regarder.
Alors non, tu peux pas dire, je suis consacré à la Torah, et en même temps, il y a quelque chose cette semaine.
Voilà, au grand match, si là je ne regarde pas, on voit si t'es capable.
C'est pas tombé lundi soir.
C'est pas tombé lundi soir, toi dis.
Oh là là.
Alors, j'étais en train de dire, on peut pas se consacrer à Dieu, et en même temps, d'un autre côté, je dis, je me sépare pas des autres choses. C'est comme une femme qui dirait, je suis consacré à mon mari depuis le mariage, mais... J'ai la porte ouverte encore pour les autres, c'est pas de problème. D'accord ? Ah non, on peut pas. D'accord ? Ah oui, on peut pas, mais c'est la même chose. Quand une personne va dire, Chas v'shalom, il va dire, je suis consacré à Kadosh Baruch Hu, mais je reste open pour le monde, il y a un problème.
Non, attention, dans le mariage, d'accord, c'est l'homme qui dit que tu es consacré. Donc,
oui.
Donc la différence.
Mais la femme accepte.
Oui. D'accord, donc là Dieu nous dit, tu nous es consacré.
On dit que la femme accepte, c'est encore plus fort.
C'est encore plus fort.
C'est qu'elle répond même pas oui, tu vois, c'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de ton oui, quoi. Tu sais ce qui est écrit dans la halakha. Dans la halakha, on pose la question, on dit comment ça se fait que la femme elle répond pas oui, j'accepte. Quand le mari dit arrête, mais écoute de Chetlin. La femme elle répond pas oui, j'accepte. Genre, on serait attendu à un oui, d'accord, comme à la mairie. Comme à la mairie, acceptez-vous de, etc. Oui. D'accord. Il n'y a pas de oui chez nous. Pourquoi? Parce que ça exprime l'annulation que la femme doit avoir envers son mari. Que la seule manière d'exprimer son oui, c'est en ne disant pas non. Non. Tout oui. D'accord. Eh oui. Mais c'est Alpi Kabbalah, c'est très fort. C'est-à-dire qu'Alpi Kabbalah, le niveau de Nekeva, c'est un niveau, c'est-à-dire que et elle montre qu'elle est complètement annulée à son mari. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'elle va finir avec son mari.
On va le rappeler, ça.
Ouais.
Mais attention.
Ça donne beaucoup plus de droits que de devoirs.
Ouais.
C'est écrit, de devoirs que de droits.
Une fois, je crois que c'est une histoire avec le rabbi, ou je sais plus avec qui. Il y a une fois un homme qui a dit au rabbi, il a dit, ma femme n'est pas comme une échette raïl. Tant une échette raïl, c'est-à-dire une femme
vertueuse.
Alors, je sais plus si c'était le rabbi, enfin, un maître hassidique. Il lui a répondu, il a dit, le jour où tu seras un homme vertueux, tu pourras exiger ta femme d'être une femme vertueuse. Et on peut mettre à sa place. Alors, je continue. Donc, c'est quoi Kodesh? C'est quoi Kadosh? Kadosh, ça veut dire, numéro 1, consacré, numéro 2, séparé. Et, il y a, en hébreu, on a aussi également, c'est un terme qui remet très souvent, le monde de Memalé et le monde de Sovev. C'est quoi Memalé? C'est quoi Sovev? Memalé, c'est le caractère d'Akadosh Baruch Hu qui intègre le monde. Sovev Kolalmin, c'est le fait que c'est des choses qui dépassent le monde. Eh ben, écoutez bien ce qu'il explique ici. Il dit, quand on fait une mitzvah, il faut avoir le sentiment d'être quelque part dans une autre planète. Et si on a ce sentiment, c'est très très bien. Ça veut dire quoi? Sovev en hébreu, c'est-à-dire
ça entoure.
Et là, on peut dire qu'on a, atteint le but de la mitzvah. Parce que c'est quoi le but de la mitzvah? C'est Kideshanu. Kideshanu, ça veut dire quoi? Numéro 1, je me consacre à Dieu. C'est fait, j'ai pris du temps pour Dieu. Numéro 2, je me sépare de la matière pour Dieu.
C'est pas rationnel.
D'accord? C'est pas rationnel. Je me sépare de Dieu, je me mets quelque part dans une autre planète. Et je sais pas si vous réfléchissez, mais on voit que en général, quand on fait une mitzvah, les fêtes par exemple, j'ai ce sentiment très fort autour des fêtes. Mm-hmm. Tout est mis en œuvre pour qu'on rentre dans une autre planète. Vous savez quand on a ce sentiment très fort?
Une autre dimension.
Le Shabbat, ou bien voilà. Quand par exemple la fête de Soukhot est terminée. T'as l'impression que on redescend d'une planète.
Ah oui,
c'est... Comment ça c'est fait exprès?
Kippour, le pire.
C'est voulu, mais c'est fait exprès. Voilà, Kippour.
La fin de Soukhot, c'est vraiment.
Tu sors de Kippour, tu sors de la Neila, tu vois des voitures. Des voitures. D'accord? Des voitures, des gens qui marchent. D'accord? Non mais c'est vrai, tu sors d'un autre monde. T'as été complètement ailleurs. T'es en train de parler avec Dieu, et là tu sors. Et après, petit à petit, tu vois, la radio, ou bien chez certains, la télé, etc., tu touches des gâteaux.
Là où tu le sens bien, c'est le matin d'accord. La veille de Shana Rabba, quand tu as passé la nuit, tu sors dehors et tu vois tout le monde qui en tout à s'agiter, toi tu sors de ta veillée avec des...
C'est fait exprès, c'est voulu. Pourquoi c'est voulu? Pour atteindre le deuxième but de la mitzvah, qui est Kideshanu Kodesh. Kodesh, on a dit, ça veut dire également séparé, un cran au-dessus. C'est un but qui est voulu. Et c'est comme ça, encore une fois, qu'on fait un pas vers Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous l'image de la montagne. Que quand un il est en bas, l'autre il est en haut, chacun doit faire un pas. Donc Dieu descend vers nous, mais nous aussi on doit monter vers Akadosh Baruch Hu. Donc on a monté un cran au-dessus. On dit toujours que, c'est un terme qu'on répète souvent à Chassidut, que un juif, il doit toujours s'habituer à être un séphar. Ça veut dire 10 cm, mais ça veut dire au moins un petit peu, un chouïa, ils auraient dit en arabe, d'accord? Un chouïa au-dessus du monde. C'est-à-dire, je dis pas qu'il faut quitter le monde, qu'il faut dire, bon, on sait pas ce qu'on se détache complètement. Il faut toujours au-dessus. Pas être terre à terre, toujours au-dessus. Et c'est le but d'une mitzvah. C'est fait exprès. Quand on rentre dans une synagogue, on oublie ce qu'il y a autour. On oublie tout. Parce qu'on élève la matière, on est au-dessus de la matière. Ouratson Elion Baruch, Moshe Katou, Belikuta Marim, Perek, Memvav. Et ça, c'est une notion en vérité qu'on avait déjà développée dans le Tanya, chapitre 46. Quand on a étudié ça il y a un an à peu près. Donc dans le chapitre 46, on a étudié cette notion-là de Kideshanu. Que Kodesh en hébreu, numéro 1, ça veut dire consacré à Dieu. Numéro 2, monsieur David, ça veut dire
séparé.
Et
on a vu aussi un troisième terme, réservé.
Réservé. Non, justement. Il y a deux notions, il n'y a que deux notions. Kodesh en hébreu, ça veut dire saint. Saint, ça veut dire quoi? Saint, ça veut dire deux choses. Numéro 1, saint, ça veut dire réservé. Un saint, en général, c'est quelqu'un qui est réservé à Dieu. Numéro 1. Voilà. Numéro 2, saint, c'est quelqu'un qui est... qui est à l'écart. Toujours l'image d'un saint, c'est quelqu'un qui est différent de tout le monde. Il est différent. Différent.
C'est ça le problème.
D'accord. Shinobi.
Alors quand on fait les fêtes, on est tous ensemble, donc on n'est pas différents.
Quand on...
Pendant les fêtes.
Oui.
On est tous ensemble, on n'est pas différents finalement.
Bien sûr, parce que le Ham Israël est différent du reste du monde.
Voilà. Pendant la semaine, on est...
Elle est fraîche ou pas? Un petit fond, bon, un petit fond de... D'accord, un petit fond de... Je crois qu'il y a des verres là-bas. Très bien. C'est bon. Gam, acharat fila. Et également après la fila, Omrim, on dit... Elecha Hashem, nafshi essa. Qu'est-ce qu'on dit ça? Elecha Hashem, nafshi essa. Juste après la Amida. Juste après la Amida, on fait Hashemnu, Bagadnu, etc. Va'aya, Avor, Hashem, Pana, Va'ikra, etc. Et après on fait le David. Qu'est-ce qu'on dit dans le David? Premier pasouk. D'accord? Donc quand on baisse la tête, etc. et qu'on se, quelque part, on est en train de enfin, s'agenouiller, le faire le vidouille, de se prosterner vers Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on dit? Premier verset. Le David. Elecha Hashem, nafshi essa. Vers toi. Traduction. Vers, donc les David, c'est un psaume que David a dit. Elecha Hashem, vers toi Dieu, nafshi essa, j'élèverai mon âme. Exactement ce qu'on vient de dire. C'est quoi le but de la tefila? C'est quoi le but des mitzvot? C'est d'élever son âme vers Dieu, de faire un pas vers Dieu. Consacrer numéro 1. Numéro 2, élever, se séparer de la matière un petit peu.
Pourquoi ça prend l'amida alors que c'est le point culminant dans l'amida?
Parce que, je trouve ce qu'on a expliqué, le but de l'amida était pour ça.
Ça était prêt.
C'est ça le but de l'amida. Et c'est pour ça qu'il dit, je me lève vers toi. Et il est en train de préparer la suite. Comme moi je fais un pas vers Akadosh Baruch Hu, je demande à Akadosh Baruch Hu de faire le pas suivant. D'accord? Daïnou, ça veut dire, un terme que M. David m'a répété au moins 10 fois cette semaine, Leïdzabka, Roucha Berucha. Hein? Alors, vas-y, traduis-nous, fais-nous kiffer un peu.
Attends, je reprends mes notes. Alors, l'esprit,
Hein? Comment on a dit? C'est quoi, Roucha Berucha?
Ben, c'est l'esprit, avoir le même...
Attacher l'esprit.
Attacher l'esprit avec l'esprit. Rappelez-vous, c'est la base numéro 1. Comment la Torah pense? Qu'est-ce que la Torah pense de l'amour? Qu'est-ce que la Torah pense de l'amitié? Qu'est-ce que la Torah pense de s'attacher avec quelqu'un?
C'est la même chose au même moment.
D'accord? C'est que comment je m'attache avec quelqu'un? C'est principalement quand mon esprit s'attache avec lui. Et quand nos esprits convergent, un petit peu compliqué. Mais quand nos esprits convergent, là on peut dire, d'accord? Là on peut dire que on travaille dans la même direction et qu'on s'aime.
Ouais, sinon, il y a les esprits qui s'échauffent.
J'ai un peu...
Et toi, c'est l'esprit.
Quand les esprits divergent, c'est là que ça pose problème.
L'esprit s'échauffe.
Non, mais ça se travaille, hein.
Ça se travaille?
Je travaille un peu cette semaine.
Rolls et...
Oui, ça travaille. Oh là
là. Tu nous endors, là.
Des fois, on est déconnecté.
Tiens.
C'est ça que... On n'arrive pas à rester connecté.
Les grosses doses, hein.
C'est à un moment donné, ça bug.
C'est les deux Z, les petites deux Z.
On n'arrive pas à s'attacher.
Tiens.
Un problème. Des fois.
Bon, j'ai pas encore mangé ce soir, alors...
Tu t'es tellement séparé que...
T'as pas le droit à l'alcool.
Tiens.
À venir au sien, tu veux?
Ah oui, je vais donner un petit peu.
Le sportif, je vous devais être à 10 cm, on vient de dire.
Un petit
le sportif, il faut voler un petit peu, là. Les Chaïm. Déjà, bon, faites-moi, enlevez le manteau. C'est pas plaisir. Hein?
D'abord les chats.
Pourquoi? Bon. Les chayim, alors, on dit pour vous.
Il a fait un
vœu, c'est bien, c'est bien. Bah, au chata donaï, on relâme, chakol et milvaro.
Ah, mais.
J'aime pas. Ça viendra avec le temps.
Vous voyez, c'est comme le coca. Après la bouche, faut pas faire. Hein? En fait, on a fait un cours une fois sur ça.
Pourquoi?
Une kafia.
Une kafia? Ah, on kiffe.
Une kafia, c'est casser le kiff.
Ah, casser le kiff.
Casser le kiff.
Pourquoi?
The holds et tout ça, hein, vous êtes dans les mots.
Dans les mots.
Comment on arrive à tout ça? Moi, j'ai fait ma tefila ce matin, j'ai pas eu de sentiment. J'ai pas eu le sentiment de consécration, de je me consacre à Dieu et je me sépare de la matière.
Ah ouais, à la vitesse, ça va.
D'accord? Attends. Quand je dis moi, c'est comme ça, c'est pour toi. Alors.
Ah, mais c'est au moment d'aller à la tefila aussi.
Eh, dis-moi, c'est pas moi.
Alors, bah, je dis un peu le chaïm. Hein.
Le chaïm.
וכל זה, תוסע, על ידי ההתבוננות, בגדולת אינסוף, ברוך הוא, comment on arrive à ça, c'est très important, ce que je veux dire ici. C'est la raison pour laquelle le cours du Shabbat matin avant la tefila est extrêmement important. Parce que quand on arrive directement à la tefila, comme ça, avec les yeux à moitié fermés, d'accord? En train de bailler encore un petit peu et...
Je suis pas là tout Shabbat.
D'accord. Bon. Quand on est encore, excusez-moi du terme, on est encore à moitié dans le coltard, on est à côté de la plaque, d'accord? Et qu'on arrive dans la tefila, et qu'on sera réellement réveillé seulement à la fin de la tefila, faut pas s'étonner que quand on arrive à la fin de la tefila, il y a un train qui est passé, on l'a même pas vu passer. La clé d'une bonne tefila, c'est dans la préparation avant la tefila. C'est quoi la préparation avant la tefila? Et des méthodes très claires qu'on va développer.
Ah.
D'accord? Des méthodes très claires qu'on va développer. Non, c'est très simple. C'est ce qu'il, a, ce qu'il va appeler ici, écoutez bien, Aramakat Adat. On dit, ça c'est quelque chose que le rabbi il insistait énormément, en Chassidout on insiste énormément sur ça. Aramakat Adat, c'est-à-dire on doit avoir un moment, ça peut durer une minute, même 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes, autant de temps que vous voulez. Ça peut être dans la voiture quand vous prenez la route, en chemin, quand vous voulez. Mais un moment dans lequel vous pensez à votre relation que vous avez avec Akadosh Baruch Hu. J'approfondis mon esprit, je traduis littéralement, pour approfondir son esprit et essayer de penser à ma relation que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. Comment je peux avancer un peu plus, qu'est-ce que je peux donner davantage à Akadosh Baruch Hu.
Ça, c'est le soir avant de se
d'accord coucher. Non, ça c'est le soir avant de dormir, d'accord. Mais le soir, on a dit que c'est un développement long. Le matin, ça peut être même 30 secondes. Ça peut être même 30 secondes. Et maintenant, on a détaillé avec la traduction. Un texte que d'ailleurs, Baruch HaShem, bon, en général, je lis pratiquement tous les matins, c'est le début du chapitre 41. Je crois les 15 premières lignes du chapitre 41, d'ailleurs on le connaît par cœur, on l'apprend par cœur à la Yeshiva. Un tuyau qui marche à 1000%. Essayez, vous allez voir, ça marche. D'accord. Chapitre 41 du Tanya, vous prenez, je crois, les 15 premières lignes. Moi je le connais par cœur, mais je sais pas jusqu'où ça va. Les 15 premières lignes, vous apprenez soit par cœur dans les mots, soit par cœur au moins dans le sens. Et là-bas on parle de la crainte qu'on doit avoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est une ségoula pour avoir la Yirat Shamayim, pour avoir la Yirat Shamayim et la crainte de Dieu pendant toute la tefila. Avant la tefila. Discrètement, discret, tu vois, 30 secondes, ça prend 30 secondes, personne te voit dans la voiture, etc.
Et 10h du mat,
d'accord. Oui, c'est quelque chose de... Non, mais c'est un classique, ça. C'est un classique, c'est quelque chose... Ça, c'est mamash, c'est Aramakat Adat. C'est approfondir son esprit envers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on nous dit, d'où on tire ça? On tire ça que dans la Gemara, hein, on nous raconte que les Chassidim Arishonim, le premier Chassidim, ils avaient l'habitude, avant la tefila, de prendre du temps pour réfléchir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est écrit dans Shulchan Aruch. C'est écrit, avant même de commencer la tefila. Bon, après les brachot, bon. C'est écrit, c'est quelque chose qui est écrit explicitement dans la Gemara Brachot. Que, omdim leit palel, on n'a pas le droit de se mettre à commencer à prier, l'omitor strok, velomitor kaludrosh, ni en venant d'un rire, ni en venant d'un état de légèreté d'esprit. D'accord? Velomitor fiouk, velomitor giouk, ça veut dire ni par la fatigue, ni en train de bailler. Et la mitor Kovet Rosh. Quand on commence la tefila, on doit être dans un état de Kovet Rosh. Littéralement, Kovet Rosh, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la tête lourde. C'est-à-dire quoi la tête lourde? C'est quoi la tête lourde? Ça veut dire avoir conscience de l'importance de ce qu'on va faire. Quelqu'un qui a la tête légère, c'est quelqu'un qui sait s'aller, sait se réfléchir, vas-y. Pigeon, d'accord? Il vole. Où tu es, il vole. D'accord? C'est quoi la tête lourde? C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, comme on aurait dit en français. Quand on commence à prier, la Gemara nous dit clairement, c'est la halakha, c'est pas un minag, c'est la halakha. On ne commence la tefila seulement si on a pris le temps avant pour avoir la tête calme, la tête reposée. Et si c'est pas le cas, on ne commence pas la tefila. C'est assuré de commencer la tefila si c'est pas le cas. L'esprit doit être calme. L'esprit doit être calme, reposé.
Il a pris des mots,
aiguisé, pourquoi pas. Mais l'esprit doit être calme, doit être reposé. On doit avoir conscience, d'accord? On doit avoir conscience de la responsabilité qu'on va avoir. De l'importance de ce qu'on va faire. Si c'est pas le cas, on ne commence pas la tefila. Vous savez que selon Maïmonide, c'est assourd de commencer la tefila si on n'est pas à ce stade-là encore. C'est assourd.
C'est pour ça que je me lève pas du tout.
Et qu'à la limite, selon Maïmonide, bon concrètement, la halakha n'est pas comme Maïmonide sur ça, mais selon Maïmonide, ce serait même mieux de... Une personne qui n'arrive pas à se calmer, elle serait même mieux de pas faire cette fille-là.
Voilà.
D'accord? Pas faire cette fille-là. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, une personne qui était très préoccupée par une affaire, par exemple, et que tu lui demandes d'avoir la tête calme une demi-heure, impossible. Il y a la tête ailleurs.
Il n'arrive pas. D'accord. Et ben à l'époque de Maïmonide, il dit, tu fais pas la tila. Là donc tu te calmes et tu. Donc tu seras calme, on recommence. Concrètement, la halakha n'est pas comme ça aujourd'hui. D'accord. Par exemple, sur du mariage. D'accord.
Non, j'ai toujours aussi.
Concrètement, on ne le fait pas aujourd'hui. Mais sachez que c'est très important. Voilà pourquoi dans la chassidoute, on accorde du temps pour étudier avant la tfila. Et on n'étudie pas l'agmara. D'accord. On étudie parce que l'agmara, ça peut nous amener forcément à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. On va étudier un texte qui va nous permettre qui va nous parler d'Akadosh Baruch Hu. Donc, des textes de chassidoute qui parlent de ça, de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. En ce moment, actuellement, on étudie la tshuva. C'est-à-dire un texte qui nous parle de l'approche qu'on doit avoir envers Akadosh Baruch Hu. Et ça, psychologiquement, ça fait un effet. Après, quand on ouvre le sidour, d'accord, même si on comprend pas encore tous les mots du sidour, mais au moins, on est déjà préparé. C'est pas comme ça, j'ouvre le livre, je commence. Je me suis préparé, j'ai pris du temps. D'accord, je me suis habillé, je me suis bien arrangé, après on démarre. C'est comme si je vais voir un roi, je rentre voir le roi, je m'arrange pas. Je cours comme ça, je transpire, comme ça, je suis à moitié, j'ai les yeux qui servent. Je sais pas. Tu rentres le voir, tu t'arranges, tu as la tête reposée, tu réalises ce qui se passe, après tu rentres le voir. C'est la même chose avec Kadosh Baruch Hu. Alors combien de temps il faut pour se préparer? Ça dépend. Il y a des gens, il leur faut une demi-heure, mais il y a des gens, 30 secondes. En 30 secondes, ça peut suffire. Le temps de réaliser, d'accord, réaliser que de l'importance de ce qu'on va faire. J'ai même vu une conduite intéressante chez des rabbanim. Avant la Amida, ils s'arrangent un petit peu. Leur talit, ils s'arrangent un petit peu. Pour montrer que, ils changent d'équipe. Ils font quelque chose, tu vois. Pour montrer, je me rends compte de ce qui va se passer. De l'importance de ce qu'il va faire. Et c'est une des raisons pour laquelle on met le talit. Une des raisons pour laquelle on met le talit. C'est quoi le rôle du talit? Quoi il sert le talit?
La shrina, non?
Pourquoi on met le talit? Faire un pas avec la prière.
C'est surtout la tunifa aussi.
C'est qu'un talit. Un talit, ça va nous envelopper de quelque chose. Ça va nous envelopper d'une aura de Kedusha. Aura, c'est intéressant parce que aura en français, enfin c'est comme aura en hébreu, ça veut dire la lumière. Aura de Kedusha. Et lorsque la personne se met dans une ambiance, c'est là qu'il va réaliser, comment dire, l'importance de ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'un talit, c'est écrit en Shulchan Aruch, un talit doit être relativement pashut, relativement simple. On peut l'orner avec il y a des gens qui ornent le talit avec des choses en argent, etc., pour le kavod de la mitzvah. Mais principalement, c'est un vêtement qui est assez simple, il n'y a pas de fioriture.
Enfin,
c'est sûr. Parce que ça nous met dans un autre esprit. Ça nous sépare un petit peu. C'est un vêtement de Kedusha. Dans les mots. Donc, comment on arrive? Donc, rappelez-vous, c'est quoi le rôle d'une mitzvah? C'est quoi le rôle de la tfila? Deux choses. Qui déjà nous? Numéro un, se consacrer à Dieu. Numéro deux, se séparer de la matière. Comment on arrive à le faire dans la tfila? Numéro un, comment on le fait dans la tfila? C'est grâce à la préparation qu'on va avoir avant la tfila. Tout est dans la préparation. Quand on se prépare bien quelque chose, après même si le train il va vite, quand on est bien préparé, c'est fluide. Donc quand on est mal préparé, même si le train il roule doucement, on est à côté de la plaque. Bishtaim lefanea ou bipsuke des imra kanoda. Et voilà la raison pour laquelle les chachamim ont instauré les psuke des imra et les deux brachot avant le schéma. De quoi on parle? Finalement, c'est quoi le but de la tfila? D'ailleurs, on l'appelle la tfila. Est-ce que vous savez c'est quoi la tfila initialement? La tfila, c'est la Amida. Initialement. À l'époque de la Gemara, c'est quoi la tfila? C'est la Amida. D'ailleurs, par défaut, quand on dit la tfila dans la Gemara, si un jour vous voyez la tfila, le mot tfila dans la Gemara, c'est la Amida. Après, avec le temps, les Chachamim ont rajouté. En premier temps, ils ont rajouté les brachot avant et après le schéma. Alors, on va commencer déjà les brachot avant le schéma. À quoi servaient les brachot avant le schéma? Les Chachamim se sont dit, ça se fait pas de rentrer dans le schéma comme ça, froid, tu vois, à froid. On va d'abord chauffer les moteurs. Comment on chauffe les moteurs? Les brachot avant le schéma, on va nous parler des anges. Le problème, c'est qu'après, avec le temps, les générations ont avancé, et les gens, même si tu leur parles des anges, franchement, ça leur fait pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté les psouké des imra. C'est quoi les psouké des imra? Dans le débarras avant le schéma, on parle des anges. Pas principalement des anges. Des anges, des choses qui sont, pour nous, c'est des choses qui sont détachées de la réalité. Donc, les rachamim, avec le temps, se sont rendus compte que c'est pas suffisant. Donc, ils ont rajouté, encore avant les anges, ils ont rajouté les psouké des imra. Psouké des imra, c'est ce qu'on étudie actuellement dans le cours du mercredi matin. Ben, c'est, on parle là-bas de Ashrei Ujevetecha, etc. Bon, de quoi on parle dans le Ashrei? On parle de la nature qui nous entoure. De la nature, c'est-à-dire des choses qui sont plus terre à terre. De la nature, des animaux, des hommes, de tout ce qui nous entoure. Et au travers de la nature, on essaye de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Après, de la nature, on va avancer vers les anges, et des anges, on va aller vers le chemin. Maintenant, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quand la dernière fois qu'on a fait attention à la nature? Hein? C'est quoi la dernière fois que je me suis réveillé, j'ai regardé la nature, waouh, l'arbre il est tellement beau. Hein? C'est quoi la dernière fois qu'on a ouvert les yeux pour regarder la nature? On regarde pas.
Ouais, on est même pas.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui,
surtout dans la vie.
On a vu un DVD.
Tu vois? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le voit pas dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on le voit pas.
On vit pas.
Donc finalement, le rôle le psouké des Imra, c'est pas suffisant. Vous comprenez le problème que j'ai? Le psouké des Imra, c'est pas suffisant. Parce qu'on a décalé petit à petit. D'abord, les gens, au début, en premier temps, à l'époque de la Mishnah, au début, les gens directement chemin, ils étaient dans le coup. Ça y est, ils étaient dedans. Après, avec le temps, on dit, bon, on va leur parler des anges pour les chauffer un petit peu. Mais après, les anges, ça nous parlait plus. Donc on dit, bon, on va leur parler un peu de la nature. Mais la nature, ça nous parle plus aujourd'hui. Celui qu'on entend parler de nature, on croit qu'il est écolo. Ça y est, c'est quand ça parle de nature, c'est un écolo. D'accord? C'est un écolo, c'est parti d'extrême gauche, etc. Va savoir ce qu'elle va nous demander encore. Il va nous parler des animaux et préserver la planète, il va nous pomper l'air. D'accord.
Et surtout,
c'est vrai. Aujourd'hui, quelqu'un va vous parler de nature.
Et de la shrita, il va nous parler.
Voilà. Il va nous parler de l'abattage rituel, Eliane Bettencourt, etc. Comment elle s'appelle l'autre qui parle? Brigitte Bardot, voilà. D'accord. Et etc. D'accord.
Ils se ressentent tous les deux.
Mais oui. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la nature, ça nous fait plus rien. Donc, si la nature, ça nous fait plus rien, on doit aller encore à une étape encore plus loin. C'est quoi l'étape plus loin? C'est la préparation qu'on va avoir avant la tefila. C'est les 30 secondes, la minute qu'on va donner à Dieu. Perso, c'est personnel. C'est chaque personne à son niveau. Personnel. Je prends 30 secondes dans la route que je fais, je réfléchis qu'est-ce que je peux donner à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui. Quelle va être ma relation avec Kadosh Baruch Hu aujourd'hui? Je réfléchis ni à la nature, ni aux anges, ni à qui que ce soit. D'abord, je réfléchis de manière perso. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, on va parler de la nature, dans la tefila, dans le psouké des Imra. Étape numéro 3, des anges. Et c'est seulement après qu'on va arriver au Kriyat Shema. Maintenant, on comprend. Ça, c'est le pas que je fais vers Akadosh Baruch Hu. Après l'Amida, je peux dire que j'ai fait un pas vers Akadosh Baruch Hu. Mais si directement, je lis un texte et voilà, j'ai fait l'Amida, ça sert à rien. J'arrive en retard, je rattrape, je suis un petit schéma ici, Amida là, j'ai fait l'Amida. Bon, bravo, c'est super. On n'a rien pris, le train il est passé, on n'a rien senti. Il faut avoir une préparation personnalisée.
On va pas me réserver du temps.
C'est bien. Tu as raison.
On a complété un minyan.
On a fait la première partie de la tefila de Kadosh, qui veut dire réservé. C'est très bien. Mais Kadosh veut dire aussi non seulement consacré, mais veut dire également séparé. Ça, on l'a pas fait. Ça, pour le faire, explique la Chassidout, ça prend du temps. Il y a des étapes. On peut pas brûler les étapes. Voilà pourquoi, selon la Chassidout, même quand on arrive en retard, on fait toutes les étapes. On peut pas brûler les étapes. Parce que si tu brûles les étapes, bah, tu peux pas monter directement en haut. C'est pas possible. Ça marche pas. Faut prendre le temps qu'il faut pour chaque étape. Faut donner le temps au temps. Chaque chose prend son temps. C'est ce qu'il explique ici. La hitbon, donc je vais lire dans les mots. Verholze et tout ça. Aliede haitbonenut. Bigdulat en sof baruchu. C'est lorsqu'on va prendre le temps de réfléchir de la grandeur d'Akadosh Baruchu. Be'amaket adat. En approfondissant son esprit. Bishtaim lefanea. Dans les deux brachot qui est avant le schéma. Ou bipsuke des imra. Et dans les psouké des Imra, c'est quoi les psouké des Imra? C'est tous les textes qui vont parler de la nature, du monde qui nous entoure. Et comme Mama, je vais repratiquer actuellement dans le cours du mercredi matin, on étudie le psouké des Imra. On voit clairement comment dans le psouké des Imra, on va en crescendo. Comment le roi David Améler, d'abord il a analysé les hommes qui l'entourent. Après progressivement il analyse les hommes qui sont plus loin de lui. D'accord? Après il a analysé la nature proche, après il va analyser la nature lointaine, comme le ciel, les étoiles, etc. Et qui va en créer, plus on y va et plus on s'éloigne. Ma mâche, on le voit ça dans la structure de la tuila. Plus on avance et plus on s'éloigne. C'est fait exprès, c'est voulu. C'est comme ça qu'on avance vers Akadosh Baruch Hu. On est en train de faire un pas vers Akadosh Baruch Hu. Et il y a une lettre du Admor Hazaken dans laquelle il dit une phrase qui est très courte mais très forte. Il dit Kol haomer tefila midrabanan, c'est pas écrit ici, mais c'est dans une lettre qu'on étudiera à Bezrat Hashem. C'est dans les lettres du Admor Hazaken qui sont aussi dans le Tanya. Il dit Kol haomer tefila midrabanan, tout celui qui dit la tefila est uniquement des sages, en d'autres termes, ça veut dire bon, c'est une mitzvah qui est pas très importante. Écoutez bien ce qu'il dit l'Admor Hazaken, il dit Lo ra'am me'orot miyamav, il n'a jamais vu de luminaire de sa vie. Je répète. Celui qui dit la tefila est des rabanan, c'est les gens qui disent rabanan, c'est sincèrement bon, c'est pas très important. Il n'a jamais vu de luminaire, enfin la lumière c'est un luminaire, c'est la source de la lumière de sa vie. C'est-à-dire que quand on arrive à faire une bonne tefila, on peut tout faire, tout est dedans. Mais la clé pour faire une bonne tefila, c'est dans la préparation qui est avant la tefila. C'est pour ça que chez Hassidim, on essaye de se tremper dans la mesure du possible. Il y a trois préparations avant la tefila. Je vous donne les trois préparations qui sont écrites dans l'écoute de Torah, j'ai de Mourazaken aussi, trois préparations qu'on peut faire avant la tefila. Numéro 1, donner la tzedaka. À tout le monde, avant la tfila. Pas avec David, avant la tfila. Mettre une pièce de tzedaka à la tfila. Mettre une pièce de tzedaka avant la tfila. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est l'étude. Alors, l'étude, c'est pas l'étude en vérité, c'est la réflexion. Même 30 secondes. Pas grave. Comme le rabbi, il a dit à quelqu'un, il y a une fois, quelqu'un qui a dit au rabbi, il a dit, écoutez, j'ai pas le temps de tuer tous les matins avant la tfila, j'ai pas le temps. Le rabbi, il a dit, c'est pas grave, c'est pas le temps de 30 secondes. Mais 30 secondes, fixe. Que tous les matins, tu sais qu'il y aura 30 secondes. C'est bon. Si tu as ça, 30 secondes, tu les as sacrifiés, tu les as donnés à Kadosh Baruch Hu. Tu vas prendre un temps pour Itbonenut. Itbonenut, ça veut dire quoi Itbonenut? Ça veut dire réflexion à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la préparation numéro 2. Préparation numéro 3, dans la mesure du possible, se trempe au mikvé. Quand on se trempe au mikvé, ces trois choses-là, c'est les préparations pour faire une bonne fila. Donc, trois choses, on a dit. Mettre la tzedaka, réfléchir à Dieu, et aller au mikvé. Quand j'étais à la yeshiva, et quand j'ai un mikvé à proximité, on va au mikvé tous les matins.
Là, c'est pratiquement impossible, le mikvé.
Mais Zrat Hashem, si vous m'embêtez un peu, on va faire un mikvé ici.
On va t'embêter.
On va trouver la place. Vous m'embêtez un petit peu.
100 euros pour le mikvé.
Hein? Alors, viens faire un mikvé. Bon, on peut faire.
100 euros dans la
caisse. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, il y a 3 ans, il m'a dit, pourquoi vous faites pas un mikvé pour hommes? Je lui dis, je sais pas s'ils seront intéressés, je sais pas s'ils vont l'utiliser. Ouais. Il n'y a rien pour la tuila?
Non, c'est un détail.
Il y a déjà pour femmes. Non mais pour femmes, c'est moins fréquent, donc c'est-à-dire pas aller au mikvé, mais un homme. On peut voir, si vous voulez, on peut faire.
Amen.
Tout est faisable, Chaim.
Mais je vois pas le lien avec ce qu'on a dit au début.
C'est Kadosh. Le lien que l'on a dit au début.
C'est qu'on a dit au départ, je pense comprendre, c'est pas par rapport au cœur. C'est-à-dire finalement, si c'est le cœur, il n'y a pas besoin de.
C'est la même chose. Comment le cœur il fait un pas vers un Kadosh Baruch
Hu? Non, c'est-à-dire, quand on a parlé de séparation, on est passé à séparation.
On a dit que le mot, si on peut définir en un mot le cours d'aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui c'est Kadosh. Voilà, Kadosh. Kadosh, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire consacré et séparé. Donc on a expliqué que ça, c'est un principe, c'est une constante qu'on retrouve dans toutes les mitzvot et dans la tuila. Numéro 1, on se consacre à Dieu. J'ai consacré un moment à Dieu, j'ai consacré une idée à Dieu, j'ai consacré un objet à Dieu. Ça c'est numéro 1. Ça c'est relativement facile. C'est facile ça. Je suis venu à la prière, j'aurais pu rester au lit. D'accord? J'ai consacré de mon temps, j'ai consacré de mon énergie, j'ai consacré de mon sommeil à Dieu. Très bien. Ça c'est déjà facile. Le deuxième est plus dur. C'est pas seulement consacrer, c'est se séparer de la matière. Ça c'est beaucoup plus dur. Et ça on le dit qu'on le retrouve dans une mitzvah. Comment on retrouve ça dans une mitzvah? Ça commence par la tfila. C'est quand on se prépare à la mitzvah. C'est dans toutes les mitzvahs, c'est comme ça. C'est pour ça que par exemple, je mets les tefilines. Vous savez qu'il y a une kavana qu'on doit avoir avant de mettre les tefilines? La même chose. On doit avoir une, il y a une kavana. Je dois avoir la kavana que de la même manière, c'est écrit sur un amour, que de la même manière que je mets les tefilines face au cœur et donc sur la tête, de la même manière, je dois consacrer mon cœur, c'est-à-dire mes pulsions et mon esprit à Kadosh Baruch Hu. C'est une kavana. Après, quand tu mets les tefilines, c'est autre chose. Chaque, comment on appelle ça, chaque tour que tu es en train de faire, tu dis, je consacre. C'est pas juste, je fais machinalement. Quand je me suis préparé avant, et que je me suis dit, voilà ce que je vais faire, c'est autre chose. Quand on se prépare, c'est autre chose. C'est comme, regarde, je donne un exemple, là, on est dans les vacances d'hiver.
100 euros par mois pendant
d'accord
10 mois. Ça va?
Très bien, allez. Oh oh.
Oh oh, oui.
Regardez, c'est très simple.
Quoi?
C'est comme, par exemple, on va en vacances.
C'est un premier pas.
D'accord, hein, très bien. Bezrat Hashem, on en parlera tranquillement. C'est comme, j'étais en train de dire, c'est comme si vous allez en vacances. On va pas comme ça en vacances. C'est pas 30 secondes avant, on m'a dit bon, tu prends un billet, tu vas. Je suis préparé, ça fait des mois que je me prépare. Je sais où je vais, je sais exactement qu'est-ce que je vais faire, je sais exactement ce que j'ai envie de faire, je sais tout. Du coup, quand j'arrive en vacances, je profite de chaque seconde. Ça n'a rien à voir. Tu comprends? Si j'arrive en vacances directement, on m'amène dans un endroit, je sais pas ce que je fais, je pose le temps, je découvre, je vais déjà partir. D'accord? Nahon? Alors c'est la même chose avec la tuila.
Ma femme m'a dit arrête de réfléchir, viens en France.
C'est la même chose avec la tuila. Avec la tuila, je prends le temps de réfléchir qu'est-ce qui va se passer. Alors je sais que c'est compliqué ce que je demande. Parce que c'est compliqué ce qu'on demande ici.
C'est pas du tout compliqué.
D'accord? Mais c'est pour ça qu'on dit que chez Chassidim, on peut pas exiger que chaque tuila soit comme ça. Mais au moins on peut exiger qu'une tuila par semaine soit comme ça.
C'est l'esprit qui...
Notamment la tfila de Shabbat. La tfila de Shabbat. C'est-à-dire que même si toute la semaine on n'a pas le temps d'étudier avant chaque tfila, mais si la tfila de Shabbat, elle au moins peut être au top, prendre le temps de dire chaque mot, de réfléchir à chaque mot, de penser comment on est dans une autre planète. C'est-à-dire que Shabbat, lorsque vous ouvrez la porte de cette synagogue, on doit avoir le sentiment que j'étais ailleurs et que je sors dans un autre monde. Ah, c'est bien.
Shabbat, c'est quand même
c'est pas normal alors qu'il y ait si peu de monde le samedi matin. En Shabbat, je devrais passer le message
un peu
plus...
Monde, c'est un monde en soi, Shabbat.
Et ça, c'est la tefila.
Moi, j'ai compris maintenant pourquoi certains venaient le...
Alors, il explique maintenant, l'Admor HaZaken va ce que je viens de vous dire maintenant dans des termes un peu matériels, l'Admor HaZaken va nous donner ça... L'Admor HaZaken...
Non, mais toi, j'ai compris pourquoi tu venais maintenant.
Bon, Dina, faut que tu nous sers un petit peu parce que là, ça y a du mal à décoller. Hein.
Ah, attends, et il y a comme, je sais pas, la journée était dure.
Il y a quoi, il a besoin de
tirer. Voilà.
Je suis déjà un demi-verre, moi, vous n'avez pas mis ça seul. Je peux manger en plus encore,
moi. Moi aussi. Mange un petit morceau de viande.
Ça va venir. Non, hein? Qui conduit?
Oh,
t'inquiète pas, il y a de la résistance.
T'inquiète pas,
c'est un radar.
Un radar.
Dans le peu de chemin que t'as à faire, il y a un radar.
Papa! Donne-moi la voiture. Allez, Khaïm. Donc, je t'aurais expliqué.
Lionel, on fait la fête toutes les semaines grâce à toi. Regarde, oui, Baruch. Oui.
Maintenant, il va expliquer dans des termes de Kabbalah.
Bon,
tu peux y aller du gâteau là. Oui, c'est
là.
Non, c'est bon, c'est bon. Ah, au contraire, pourquoi c'est gratuit? T'inquiète pas, je suis maigre, mais j'ai de la résistance.
On l'a vu, on l'a vu. On l'a vu.
Au niveau de...
Le tout, c'est de commencer très jeune à boire.
Non, rate de chaleur. Je vais expliquer. C'est pas compliqué.
Comment c'est très jeune?
C'est expliqué. C'est dit que... Enfin, pourtant...
Ça n'a rien à voir avec maigre.
Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence.
Ça
n'a rien à voir avec l'intelligence. Quand tu as une personne qui est très intelligente, il a besoin de beaucoup d'alcool pour le saouler. Yaakov, par exemple, il faut énormément pour le mettre à plat, parce qu'il est très intelligent. Non, mais c'est vrai. C'est lié à l'intelligence. Parce que l'alcool doit être plus fort que l'intelligence.
Empiriquement, j'ai pas vu ça.
Bon.
Il y a un degré.
Allez, quoi qu'il en soit.
C'est un très intelligent qui se fait.
Alors, dans les mots. Donc maintenant il va expliquer dans des termes de Kabbalah. Les gens vous expliquer dans des termes matériels. Il va expliquer dans les termes de donc en d'autres termes, qu'est-ce que je viens d'expliquer? Que pour faire une bonne tfila, il faut une bonne
préparation.
Pour que la tfila me permette numéro 1 de me consacrer à Dieu, numéro 2 de me séparer de la matière, il faut une bonne préparation. Si j'ai pas de bonne préparation, ça marchera pas. Très bien. Alors, en langage de la Kabbalah, ça s'appelle la Teshuvah Ila'a et la Teshuvah Tata. C'est quoi la Teshuvah d'en haut et la Teshuvah d'en bas? La Teshuvah d'en haut, c'est le sentiment que je vais avoir quand je serai déjà dans la Tfila, que je suis déjà dans une autre planète. C'est le sentiment qu'on a lorsqu'on est... Vous savez, lorsqu'on s'est bien préparé une mitzvah, c'est le sentiment... Ça, je pense qu'à un moment où on ressent très fort ça, c'est à la fin des fêtes du Tishri. Vous savez pourquoi on ressent ça à la fin des fêtes du Tishri? Parce qu'on s'est préparé. On a eu le mois des Loul, les Slichot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. Et seulement quand on arrive à Simchat Torah, que là vraiment on a le sentiment qu'on est ailleurs. Et c'est pour ça que quand après Simchat Torah, on redescend, il y a une chute qui est... On sent la chute.
Parce que c'est très simple,
parce que pendant les fêtes de Sukkot, à la fin des fêtes de Sukkot, on était au niveau de la Teshuvah, d'en haut. On était déjà en haut. Mais pour arriver à la Teshuvah d'en haut, il fallait d'abord une Teshuvah d'en bas. C'est quoi la Teshuvah d'en bas? C'est toute la préparation qu'il y a eu par derrière. Les Slichot, Rosh Hashanah, Kippour, c'est une préparation tout ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas être en haut si on n'a pas eu une échelle. C'est pour ça que la Tfila, dans la Kabbalah, comment on appelle la Tfila? C'est l'échelle de Yaakov. La Tfila dans la Kabbalah, c'est comparé à l'échelle de Yaakov. Soulam Yaakov. Pourquoi une échelle? Parce que c'est la même manière qu'une échelle. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dans une échelle? Dans une échelle, il y a des échelons. Et que pour arriver au dernier échelon, passer étape par étape, en crescendo, progressivement en avance. De la même manière, pour arriver tout en haut, ça prend du temps. C'est pas comme ça qu'on arrive tout en haut, ça prend du temps, ce qui explique ici. Ou ma'achar, sha tfila, ibrina, tshuvatata, kanal. Puisque la tfila, c'est la tshuvat d'en haut, comme on l'a dit avant. Tsarir, la'agdim, lefanea, prina, tshuvatata. Avant de faire la teshuvah d'en haut, il faut d'abord faire la teshuvah d'en bas. C'est quoi la teshuvah d'en bas, hein? La teshuvah d'en bas, c'est la préparation, c'est le temps qu'on va prendre pour se préparer, pour être dans le coup, pour se sentir qu'on a envie de parler à Kadosh Baruch Hu. Vezehu shamru rabotenu zichronel bracha b'mishna. Avec ça, on va comprendre ce que le Chachamim dit dans la Mishnah, dans le chapitre 5 de la Gemara Brachot. En omdim leitpalel ela mitor koved rosh. C'est écrit dans la Mishnah que on ne commence cette fila seulement si on est dans koved rosh. Traduction de koved rosh, je l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi koved? Koved, ça veut dire kaved, lourd. Rosh, c'est la tête. Ça veut dire quoi, la tête lourde? Ça veut pas dire qu'on a la tête qui tourne. Ça veut dire que on a, ça veut dire koved rosh, ça veut dire que on se sent responsable, on a la responsabilité de l'importance de ce qui est en train de se passer. Koved rosh. Ou pire, Rashi a expliqué, c'est quoi koved rosh? Achna'a, la soumission. Ça veut dire quoi, la soumission? Bien que le but de la tfila, c'est quoi? Dans la tfila, une fois que je suis déjà dans la tfila, je vais avoir la simcha. Et je vais avoir un sentiment d'amour vers un Kadosh Baruch Hu. Donc, pas, normalement, une personne qui est amoureux n'est pas soumise. Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui est amoureux et soumise? Non. Normalement, par définition, l'amour, ça me donne le sentiment de monter, de voler. Alors, comment tu veux que j'ai un sentiment de soumission? Le sentiment de soumission doit être avant la tfila. Une fois qu'avant la tfila, j'ai un sentiment de soumission envers un Kadosh Baruch Hu, là, lorsque, après, par la suite, il y aura un amour, ça sera un amour qui sera guidé vers un Kadosh Baruch Hu. Mais sinon, on est à côté de la plaque. Sinon, c'est des mots que j'ai dit. Je suis à côté de la plaque. Comme il dit ici. Ça veut dire qu'avant de faire la tfila, je dois avoir le sentiment que je suis soumis à Kadosh Baruch Hu. À l'époque de la Mishnah, c'était un sentiment qui peut arriver au quart de tour. Il ouvre le livre, ça y est, c'est bon, je suis soumis, je suis dedans. Comme je dis, après avec le temps, on a rajouté les deux brachot avant le schéma, qui nous parle de quoi? Qui nous parle des anges. Après, avec le temps, on a rajouté le souk d'étonnerie qui parle de la nature. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit rajouter? On doit rajouter du temps de préparation pour nous parler de quoi? Pour nous parler de la préparation qu'on doit avoir. De la soumission qu'on doit avoir envers Kadosh Baruch Hu. Une fois qu'on est soumis envers Kadosh Baruch Hu, c'est là après qu'on peut être amoureux. Ça veut dire que selon la Torah, écoutez bien ce que je viens d'expliquer, on peut être amoureux de quelqu'un que si d'abord on a décidé d'être soumis à lui. Ça peut s'appliquer dans toute la vie. On peut être amoureux de quelqu'un que si d'abord on a décidé d'être soumis à lui. Sinon c'est du pipeau. Ça marche pas sinon. Vous prenez David. C'est comme ça que ça marche.
Soumis, ça veut dire annulé.
Soumis, ça veut dire annulé.
Même pas oui. Moi j'ai compris.
D'accord.
Je sais, t'as compris
quoi. Mon esprit, lui.
Oui, compris, oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut être amoureux de quelqu'un, sentir que nos esprits convergent et ne divergent pas chas v'shalom, uniquement si d'abord on a eu un sentiment de soumission. Tant qu'on a le sentiment qu'on est un verre plein, on pourra jamais converger notre esprit avec quelqu'un d'autre. C'est impossible. Pour avoir une relation durable avec quelqu'un, il faut d'abord vider son verre. Et avoir le sentiment que mon verre est peut-être vide et que peut-être qu'il n'est pas plein. Et que peut-être que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour le remplir.
Eh oui, c'est sûr. Ça
ouais, mais il faut que le sentiment soit une pareil de l'autre côté.
Ah oui. Il y a Vener qui va répéter.
Ah oui. Non, c'est la vérité.
Bien sûr. Il doit avoir ce sentiment des deux côtés. Bah oui. Chacun doit avoir le sentiment d'être un demi-verre, un demi-shekel. On n'a pas un chat qui dit ça.
Oh non, ça peut être 1, 0 et 0, 1.
Par un chat qui dit ça.
Ouais.
C'est la dernière sira qu'on a entendu, c'est la dernière sira que le rabbi a corrigée. Il a dit, c'était un dimanche, le dimanche de la paracha Vayakel, de paracha Vayakel, en Tafshilut 5752, 1992. Et la dernière sira que le rabbi a corrigée, c'était le dimanche matin, avant qu'il parte au OL, où là-bas, malheureusement, il s'est effondré, il a eu une crise cardiaque. La dernière sira que le rabbi a corrigée, il a dit que chaque juif doit avoir le sentiment qu'il est un demi-shekel. Que sans un autre juif, il est qu'un demi, il est qu'une moitié. C'est ça?
Il y en a, ils ont l'impression d'être un shekel aussi, je
pense. Ah, il y en a, ils ont l'impression qu'ils sont 10 shekels.
Quand tu leur parles, ils sont tous à l'avant.
C'est exactement ce qui va se passer. Il faut avoir le sentiment d'être un demi-shekel. Quand on a le sentiment d'être un demi-shekel, la soumission, une fois qu'il y a la soumission, c'est là qu'on peut avoir par derrière, c'est là qu'on peut avoir l'amour. Ça veut dire qu'avant de sentir qu'on a quelque chose à donner, il faut d'abord sentir qu'on a quelque chose à recevoir. Ah, je sais que j'ai des grands mots, mais bon, c'est comme ça. Avant de sentir qu'on doit donner, qu'on a quelque chose à donner, il faut d'abord sentir qu'on a quelque chose à recevoir. Et une fois que je sens que j'ai quelque chose à recevoir, c'est là que je peux donner quelque chose. Si c'est pas comme ça, ça marche pas. On est d'accord? Sinon, ça marche pas. Et ça, c'est la teshuvah d'en bas. La teshuvah d'en bas, c'est quoi? La teshuvah d'en bas, c'est quand je prends le temps pour réfléchir que j'ai quelque chose à recevoir. Et là, après, je peux te donner quelque chose.
Non, parce que dans ce cours, on parle beaucoup de teshuva d'en bas. Le cours d'avant, on parlait beaucoup
bien
de
teshuva d'en bas. Bien sûr. Parce que la teshuva d'en bas, c'est le pas qu'on va faire vers Akadosh Baruch Hu. Je montre à Akadosh Baruch Hu que je veux aller vers toi. Une fois que je montre à Akadosh Baruch Hu que je veux aller vers toi, c'est là que je vais me soumettre à Akadosh Baruch Hu. Une fois que je montre à Akadosh Baruch Hu, en vérité, une personne qui est soumise, tout est là. Une fois que j'ai montré à Akadosh Baruch Hu que je suis prêt à me soumettre à lui, tout est là. Ou que d'ayali bigmara, atam bigmara mikra. Et ça, la Gemara, dans la Gemara Brachot, chapitre 5, elle apprend d'un verset. Dirtiv, c'est écrit. Vous savez que la référence de toutes les tefilot, c'est la tefila de Chana. Chana. D'accord? Dans la tefila de Chana, c'est, qu'est-ce qu'on nous raconte là-bas? On nous raconte que Vei Marat Nefesh. Que Chana, dans cette tefila, elle avait l'esprit amer. Elle était soumise. Et que c'est quelque chose qui était nouveau à cette époque-là. Et c'est pour ça que le prophète Eli, lorsqu'il l'a vue, il pensait qu'elle était sous. Pourquoi elle était sous? Parce que, elle, qu'est-ce qu'elle a dit, Chana? Elle a dit non! Elle a dit, va'eshpoch et nafshi lifnei Hashem. Je suis en train de dépencher mon cœur, dépencher mon âme envers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de se soumettre vers Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, c'était nouveau. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on connaissait d'une prière? On croyait qu'une prière, c'était des demandes, on demande. Elle dit non! Avant de demander, il faut d'abord se soumettre. Avant d'avoir le sentiment que j'ai quelque chose à donner, il faut d'abord avoir le sentiment que j'ai quelque chose à recevoir. Et ça, c'était le chidouche de Chana. Chana, elle était en pleurs. Parce qu'elle était en train de montrer à Kadosh Baruch Hu que je te donne le sentiment à Kadosh Baruch Hu que j'ai quelque chose à recevoir de toi. Et après seulement, elle dit maintenant à Kadosh Baruch Hu, je te demande. Ça, pour le prophète Eli, c'était nouveau. Pour lui, il croyait qu'elle était maboule, elle était sous. Vei marat nefesh. Et pour, dans la Gemara Brachot, une grande partie des dinims de la Amida, on les apprend de la tefila de Chana. Pourquoi? Parce que c'est ça une tefila. C'est quoi la tefila? C'est Kovet Roche. Avant de commencer la tefila, on doit avoir Kovet Roche, on doit avoir la soumission comme Chana avant de commencer cette tefila. Avant de commencer cette tefila, elle a une soumission. Et c'est comme ça qu'on doit avoir, nous, aujourd'hui, avant de commencer la tefila. Alors maintenant, néanmoins, ça sera un détail qu'on développera la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Quand on étudie ça, on peut avoir l'impression que soumission, ça veut dire tristesse. Mm-hmm. Alors qu'on sait très bien que dans la Chassidoute, on parle beaucoup de la joie. Simcha, de la joie. Ça, Bezrat Hashem, on développera la semaine prochaine. Longuement. Comment la soumission n'est pas une contradiction avec la joie. Chas v'shalom. C'est pas parce qu'on est soumis qu'on n'est pas joyeux. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Mais si on peut résumer en un mot ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est les deux définitions de Kadosh. Numéro 1.
C'est difficile d'avoir la tête lourde avec un sentiment de joie.
Ça, c'est la semaine prochaine.
On peut avoir
un cours entier sur ça.
Ouais. Quand tu vas avoir le roi, tu vas être content.
Alors, quand tu vas avoir la tête lourde et responsable, si
tu es
dans un état de...
En général, lorsqu'une personne a le sentiment de responsabilité de l'importance qu'il va faire, en général, il est m'chène pas. Il est pas bien.
Non, d'accord. Il est au moins...
D'accord. Voilà. Il est pas bien. Il est là, il dit bon, attention, chaque détail, chaque pied que je vais bouger, d'accord? En général, une personne qui est joyeuse, il maîtrise pas trop ses gestes. Une personne qui est responsable, il me chénève comme ça.
Non, il a une posture. Il est, comme tu disais tout à l'heure qu'il allait faire la mida, il a rangé.
Et posture, il est.
Pareil.
Ben oui, il est pas bien. D'accord, il est là comme
il
ça,
il réfléchit.
J'y vais pas. D'accord. Alors que justement, qu'on a expliqué, que ça doit se faire simcha. Ça, c'est la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on a expliqué pour aujourd'hui.
Très important.
C'est que c'est quoi Kedusha, c'est quoi Kadosh. Kadosh. C'est quoi Kadosh? Crois trois fois, on expliquera la semaine prochaine. C'est quoi Kadosh? Numéro 1, Kadosh, ça veut dire se consacrer à Dieu. Ça, c'est facile. Je fais une là, je me consacre à Dieu. Numéro 2, Kadosh, ça veut dire quoi?
Se séparer.
S'élever de la matière. Ça, comment on le fait? C'est le temps qu'on va prendre avant la tefila pour se consacrer à Kadosh Baruch Hu, pour se séparer de la matière. Je dis, maintenant, je rentre à la synagogue, je suis ailleurs. Une fois qu'on arrive à avoir ce sentiment-là, après la tefila, c'est du
guetton.
Alors, j'arrête pour aujourd'hui. Allez, rentrez bien.